Amor mio, ti prego, lascia che io ti tolga quei panni troppo severi, che così poco si addicono al nostro incontro d'amore.
Dobbiamo attendere.
Che cosa?
Non lo so, se il mio amico è già arrivato.
Amico?
Casanova è splendido nel suo mantello azzurro. Passa per le calli e ogni donna non è che un sussurro.
L'ambasciatore francese?
Ma...
Sguardi che trafiggono, livori, amori e
pene.
Casanova vive, c'è Venezia nelle sue vene.
Toujours sincère et toujours manipulateur, séducteur à l'appétit inépuisable, passeur de toutes les frontières géographiques, sociales, morales, résumé du XVIIIe siècle à lui tout seul, ainsi apparaît Giacomo Casanova, alias Jacques Casanova de Saint-Galt, dont la vie fut un perpétuel roman qu'il ne cessa de raconter en plaisante compagnie et qu'il se décida enfin à rédiger à l'approche de la vieillesse, afin, dit-il, de broyer de l'encre pour ne pas broyer du noir. Les dernières en date des frasques de Casanova ont pour cadre la Bibliothèque nationale à Paris, où une superbe et malicieuse exposition lui est consacrée à partir d'aujourd'hui même et jusqu'au 19 février. On y découvrira, outre les tableaux des ravissantes créatures qui ont croisé sa route, un véritable diaporama de Venise, Constantinople, Paris, Vienne et pratiquement toute l'Europe, des alchimistes, des salles de jeu, des bordels et celles des maçons, aussi, où l'on croise Mozart, celle des courtisanes, celle des rois, des histrions, bref, une Europe dont la langue véhiculaire des milieux cultivés est encore, à cette époque, le français. Donc tout un monde vraiment que cette Europe galante d'Ancien Régime, futile et profonde à la fois, qui, comme Casanova, idolâtre les plaisirs et la musique. Voilà, un petit clin d'œil du côté de Fabio Biondi et de son Europe galante. Fabio Biondi qui a réveillé la musique baroque de sa triste époque que Jordi Savall qualifiait de musique de salle de bain. Alors nous allons poursuivre Casanova dans quelques-unes de ses errances. Casanova voyageur en compagnie notamment de Chantal Thomas. Bonjour Chantal Thomas.
Bonjour.
C'est vrai que cet aspect voyageur, vous l'avez regardé de près dès 1985, puisque vous avez consacré à Casanova une étude qui est constamment republiée depuis et qui s'intitule « Casanova, un voyage libertin ». Donc ce côté perpétuellement en mouvement du personnage vous a intéressé, tout comme cet aspect de résumé du XVIIIe siècle, puisque vous êtes vous-même une grande spécialiste de ce XVIIIe siècle.
Je suis une voyageuse aussi.
Alors, l'aspect voyageur, justement, l'aspect perpétuellement en mouvement de Casanova, moi, c'est ce qui m'a frappée. Et en parcourant l'exposition donc, qui ouvre aujourd'hui même, dont vous êtes commissaire.
Oui, une des quatre commissaires.
Voilà. Et puis, en même temps, évidemment, cet appétit perpétuel de belles créatures qu'il enchaîne, mais dont il tombe quand même amoureux. C'est-à-dire qu'il n'a pas, contrairement au Casanova qui est montré dans le film de Fellini, dont on donnait là tout de suite un petit extrait, ce côté donjuanesque, justement, c'est un homme perpétuellement amoureux.
C'est quelqu'un qui a conçu sa vie comme une suite d'épisodes qui doivent d'abord, lui, le passionner. Et le voyage se prête beaucoup mieux, je pense, que l'immobilité ou la vie sédentaire à ce renouvellement de soi et à ce sentiment complètement excitant qu'on a quand on débarque dans une nouvelle ville, une nouvelle culture, ce sentiment de faire redémarrer le film et qu'on peut à nouveau jouer. Et pour lui, ça, comme il hésite un peu, mais à partir de vers l'âge de 20 ans, il se décide aventurier. Il a hésité parce qu'il était un peu... sa grand-mère avait envie qu'il soit prêtre.
Mais c'est avant 20 ans, alors, qu'il est question qu'il soit prêtre.
Ah oui, non, après, quand il se connaît un peu mieux, ça serait hors de question.
Quoiqu'à l'époque, on s'arrangeait un tout petit peu.
Oui, il est pas pour le jeu des apparences et derrière, vivre sa vie. Il rencontre plus tard le cardinal de Bernis, mais c'est pas du tout son profil. Non, il hésite. Non. Après, il tente la carrière militaire et finalement, il comprend que la seule loi qui l'inspire, c'est la sienne. Et il se décide pour l'aventure. Et l'aventure, en effet, ça implique le voyage. Ça aussi, ça implique le voyage, pas seulement parce qu'on veut renouveler le scénario de son existence, mais aussi pour des questions presque stratégiques d'aventure et d'aventurier. Parce que il change les aventuriers, c'est des scènes que j'adore, quand ils se croisent de ville en ville. Et très vite, ils se disent leur nouveau nom, ils se chuchotent leur nouveau repère, etc. pour que tout recommence, mais souvent sous d'autres identités. Ça, c'est génial.
Alors, il a une très jolie phrase, il dit « J'ai pris le beau moment de partir ».
Ah, j'adore cette phrase. De toute façon, lire ou relire Casanova est exaltant et donne une sorte de souffle de vie au lecteur ou à la lectrice.
Oui, ce qui frappe, c'est sa vitalité, son énergie.
Exactement. Et « J'ai pris le beau moment de partir », c'est vraiment emblématique de son mode d'être. Il part, depuis la première fois où il quitte Venise, il part sans rien regretter. Et quand il part tendu par le mouvement de curiosité qui le pousse à toujours désirer du nouveau. Et c'est aussi comme ça qu'il désire. C'est-à-dire, lui, ce qui le fait désirer, c'est la diversité des visages. Il est passionné par les visages. Et les visages lui donnent envie d'en savoir plus.
D'ailleurs, il a des mots là-dessus très précis, puisque à un moment, on est à Venise, on porte souvent un masque, et il dit qu'au fond, il n'a aucun plaisir à faire l'amour avec une femme dont il ne voit pas le visage.
Non. Et de même, il n'aime pas faire l'amour avec une femme dont il ne parle pas la langue. C'est très intéressant, ça. Très intéressant. C'est une des choses qui casse vraiment la figure de quelqu'un qui serait simplement un accumulateur de bonne fortune. Non, il aime la complicité linguistique ou d'échange de regards.
Alors, dans cette passion perpétuelle du départ et du voyage géographique, évidemment, compte certainement pour beaucoup le fait qu'il soit vénitien. D'une famille aussi d'acteurs qui se déplacent. Donc il est tombé dans cette marmite de saltimbanque, voyageur, itinérant quand même dès le départ.
Oui, sauf qu'il n'a jamais vécu sur le mode de nomadisme de sa mère. Il est dès l'enfance séparé d'une certaine façon de ses parents. Et la mère, le père et la mère, puis très tôt la mère seule, avec d'autres frères et sœurs de lui, elle va continuer de voyager. Mais lui, il grandit vraiment à Venise et ensuite il est mis en pension à Padoue. Mais il n'a pas du tout vécu la vie saltimbanque d'un théâtre ambulant. Il est à lui seul tout son théâtre et il va reconstituer. Il est à lui seul toute la troupe qui peut l'enchanter.
Et il voit le monde entier venir à Venise aussi.
Oui, ça c'est en effet. Et une grande partie de l'année, Venise était en temps de carnaval. Donc il voit aussi le monde entier comme une fête où tous les coups sont permis, puisqu'on joue masqué, on vit entièrement masqué, et il y a un dieu qui domine tout ça, c'est le jeu. Donc la fortune est au fond l'instance qui va conduire Casanova, comme ça, de salle de jeu en chambre, en alcôve, en auberge.
Ces salles de jeu vont souvent, et son talent au jeu va souvent être son passeport dans ses nombreux voyages.
Oui, je parlais tout à l'heure des rencontres entre les joueurs qui se retrouvent, à demi-mot se glissent des tuyaux, des choses comme ça. Mais c'est évidemment aussi une société de joueurs. Et l'Europe de cette époque est une Europe joueuse. Et on joue dans toutes les couches de la société. ça on en a beaucoup de mal à comprendre ça maintenant, le jeu était vraiment la passion dominante. Et dès qu'il y avait un débat qui vraiment excitait, c'était parié, il y avait des paris qui s'ouvraient.
Il va même diriger une loterie à un moment, et il va devenir assez riche d'ailleurs, mais il va tout perdre.
Mais ça lui arrive très souvent d'être riche.
Mais il dépense tout.
Oui, d'ailleurs, dans ses mémoires, quand il dit j'ai été très riche et j'ai dupé énormément de gens, et il dit je pourrais en avoir quelques regrets, mais je n'en ai aucun puisqu'il ne me reste rien. La roue tourne.
Voilà, les cloches de Venise, cette Venise où Casanova est né, je crois, en 1725, c'est ça, Chantal Thomas. Alors, cette Venise galante, on entendait à nouveau Fabio Biondi et son Europe galante. Cette Venise qui elle-même aligne beaucoup de lieux de plaisir et qui vont inciter Casanova à parcourir ses lieux de plaisir en Europe. Ce qui nous permet d'inviter dans la conversation maintenant Edith Huyg. Bonjour Edith Huyg.
Bonjour.
Alors, vous avez sorti il y a de ça quelques mois un délicieux petit livre qui s'appelle « Petite histoire des lieux de débauche » chez Payot.
Oui, que je commence très tôt. Je commence dans la caverne, donc bien loin avant Casanova. Bon,
mais il est présent.
J'imagine qu'à Lascaux, déjà, les femmes connaissaient le pouvoir de s'attacher et d'exploiter les hommes, hein, disons-le. Et ça se perpétue à l'époque de Casanova. Si ce n'est que Casanova est beaucoup plus ambigu par rapport justement à ce jeu, puisqu'il est séducteur. Mais il aime être séduit aussi, donc il a un rapport qui est très différent de bien des... C'est pas uniquement des rapports de maisons de débauche et de bordel.
Mais alors, quels vont être ces lieux qu'il fréquente? Parce qu'il dit explicitement que ça ne le gêne pas, lui qui est un séducteur dans l'âme, ça ne le gêne pas quand même les amours tarifées. Il n'a rien contre.
Oui, et je crois qu'à l'époque et depuis bien longtemps, les amours tarifées ne gênaient personne. Les maisons de plaisir à Paris, comme celle de la Gourdon, par exemple, ou de la dite la Petite Comtesse, étaient des maisons où tout le monde se croisait. Il y avait bien un escalier secret pour y rentrer sans être vu. Mais on se croisait dans le salon, et on y croisait le duc de Richelieu, on y croisait des femmes qui payaient elles-mêmes pour trouver... Il y a une demande pour une femme qui voulait un boucher bien membré quand même, se le donner du plaisir à l'heure de la messe.
Il y a des femmes qui viennent fréquenter lieux pour le plaisir, des aristocrates...
Qui cherchent,
qui se font payer quand même.
Non, qui paient. Il y a une parfaite égalité à cette époque-là. Bon, il y a moins de femmes que d'hommes, bien sûr, comme il y en a toujours eu. Mais Casanova fréquente avec son ami Patu, entre autres, la maison de la Gourdon. Et c'est là où il va découvrir, dit-il, une maîtresse qu'il offrira à Louis XV. Alors, est-ce lui, est-ce pas lui? Là, il y a un petit débat. Mais les gens vont, fréquentent, dînent, boivent beaucoup de champagne et ce sont des lieux de fête complets, un peu comme l'ont été les grandes maisons des années 30 et 40.
Alors cette histoire, justement, elle est assez représentative de ce qu'est Casanova, cette jeune maîtresse qu'il va donner à Louis XV et que lui-même va préserver. C'est-à-dire qu'il va rencontrer cette jeune fille.
Il aurait beaucoup aimé y toucher au départ. Elle lui a coûté très cher parce que la petite jeune fille qui avait 14 ans, qui était quand même très éduquée dans l'esprit de galanterie. Ses deux sœurs étaient déjà dans le métier. Une suivait les armées, l'autre était chez la Gourdon. Et on savait qu'un pucelage offert au roi valait très cher. Donc on ne se gâchait pas. Casanova la trouve par hasard, a le droit de lui faire sa toilette, d'avoir des privautés avec elle, mais pas l'acte final. Et l'acte final, on fait faire un portrait que l'on fait porter à Louis XV. Et Louis XV, évidemment, craque et l'installe dans la petite maison du Parc aux Cerfs. Voilà. La dame sera joyeusement récompensée puisqu'elle finira noble bretonne dans un château isolé et confite, pense-t-on, en dévotion.
Alors, à travers tous ces voyages, Casanova s'intéresse-t-il, puisqu'il il va jusqu'à Londres, est-ce qu'il va à Londres ?
Il parle de Londres à un moment et trouve que les... Non, il ne va pas à Londres, je sais plus.
Il va jusqu'en Russie,
en
tout cas.
Il va jusqu'en Russie,
Chantal
il
Thomas.
Va en Pologne.
Si, il va à Londres, c'est très important, le séjour à Londres.
Et bon, il va à Istanbul. Il voyage comme les gens voyageaient beaucoup. Hein. De toute façon, il y a toute une classe sociale. Alors, outre les aventuriers qui se déplaçaient, les ambassadeurs, les gens se retrouvaient, se connaissaient quand même pas mal les uns les autres.
Et alors, ce qui frappe quand on lit justement ces mémoires de Casanova, c'est à quel point finalement ces milieux recommandables et non recommandables sont beaucoup plus poreux qu'on ne pourrait croire au XVIIIe siècle. Chantal Thomas,
Ils le sont jusqu'à un certain point. Justement, Casanova, l'histoire de Casanova, elle est très, très significative là-dessus. C'est qu'on a l'impression que tout lui est ouvert. Et ça, c'est en grande partie le jeu qui rend poreux les mailles sociales.
C'est à la table de jeu qui se fait ses relations, quoi.
Oui, des relations. Vous voyez, les tables de jeu, c'est ouvert. Et même à Versailles, on joue énormément à Versailles. Donc les édits contre le jeu sont totalement inefficaces. Mais on voit très bien avec l'affaire de Madame d'Urfé qu'il va trop loin, d'une façon. Il y a trop d'argent.
Qu'est-ce que c'est l'affaire avec Madame d'Urfé ?
Madame d'Urfé, la marquise d'Urfé, était absolument folle d'alchimie. Et Casanova, introduite auprès d'elle par son neveu, comprend tout le bénéfice possible auprès d'une femme pareille. D'abord, qui était beaucoup plus vieille que lui, mais qui avait une vraie beauté, une bibliothèque inouïe. D'ailleurs, on voit des volumes de Madame d'Urfé dans l'exposition, extraordinaire, je trouve. Et il a l'idée de lui promettre sa renaissance en garçon à partir d'un accouplement magique. Et surtout, à partir d'une offrande, d'abord à la lune, qui consisterait à remplir un coffret de pierres précieuses et à faire don à la divinité.
Et elle marche.
Oui, et c'est extraordinaire. C'est une scène d'une beauté inouïe et d'une étrange, et très étrange. Parce que Casanova, manifestement, a couché beaucoup de fois, ou en tout cas, a couché avec Madame d'Urfé. Il est allusif là-dessus.
Et pas en se forçant véritablement.
Non.
Pas comme... Il n'est pas gigolo
Je pense que les vocables, c'est toute une affaire de nuances. Il est payé, c'est une circulation.
Alors dans l'entourage de...
Mais là, il va trop loin justement parce que cette histoire est incroyable et la famille s'oppose et c'est à cause de la famille de Mme d'Urfé qu'il va être exclu de Paris finalement.
Exclu comment ? Manu militari ou non, on va le prévenir qu'il serait mieux qu'il s'en aille ?
Non, il suffit d'une lettre de cachet du roi disant qu'il ne peut plus demeurer. Donc non, vous voyez, on peut aller loin, mais c'est tout comme maintenant, hein, c'est des frontières.
Alors pour ces phrases qu'il a quand même payées, il y a l'épisode de la prison des plombs à Venise, il y reste quand même combien de temps ? Il y reste un an, non ?
Près d'un an, mais surtout il a peur que ce soit indéfini comme... Et puis, c'est extrêmement pénible. Il sent qu'il est peut-être jusqu'à la fin de sa vie dans cet enfer. Et c'est son coup de génie, c'est en effet, et surtout c'est là où on voit la force physique et la force morale qu'il avait, c'est cette évasion.
Alors vous nous disiez tout à l'heure, vous commenciez à nous dire que l'épisode de Londres est important pour Casanova, parce qu'on connaît l'épisode avec Catherine, on va parler peut-être tout à l'heure de sa rencontre avec Voltaire. Mais Londres, qu'est-ce qui se passe ?
Londres, c'est un épisode, il a cette phrase à propos de Londres. D'abord, il se sent très mal à l'aise dans la langue anglaise. Alors, c'est très intéressant les relations de Casanova aux langues. Il est hypersensible aux langues, au langage. C'est un écrivain. Et il n'a aucune affinité avec la langue anglaise, aucune avec l'allemand, avec les langues du Sud, oui. Et la langue anglaise, tout de suite, le fiche comme une étrangeté suspecte. Bon, ça, ce n'est pas très grave. Ce qui est très grave, c'est qu'il rencontre à Londres une jeune fille qu'il avait déjà rencontrée, la Charpillon. Et cette jeune fille, qui est une jeune prostituée très belle, elle s'est jurée de le détruire.
Pourquoi ? Elle avait une rancune ?
Non, un caprice.
Son pouvoir. Elle voulait expérimenter
pour jouer.
Son pouvoir. Ouais.
Et Casanova tombe dans le piège, et d'ailleurs ça va donner, c'est l'épisode qui va inspirer cet obscur objet du désir, ou Pierre-Louis. Parce que Casanova, il faut le dire, histoire de mémoire, ça se divise en 1000 petits romans. On peut vraiment... Bon. Et elle va jurer sa perte, elle va y réussir, et Casanova a cette idée géniale pour se venger, c'est qu'il achète un perroquet qui place sur un marché, et le perroquet dit, malheureusement c'est en français, il dit la charpillon est encore plus putain que sa mère. Voilà, quand on pense la théâtralité et le génie inventif de Casanova, c'est des choses comme ça.
Alors, l'un des épisodes très heureux de sa vie est à Constantinople. Donc là, vraiment aux frontières, aux limites de l'Europe. Il est jeune et là, il découvre l'Orient, ce qui, pour un Vénitien d'ailleurs, est assez logique.
Oui, les Vénitiens voyagent depuis le 8e siècle, pratiquement, vont aux marches de l'Orient avant de se lancer dans des aventures beaucoup plus lointaines comme Marco Polo. Mais l'Europe bouge, et ça, je crois que c'est une chose que dès le 8e siècle, et certainement bien avant, même à l'époque romaine, les gens bougent. Nous avons l'idée aujourd'hui que les gens sont fixes et que tout le monde reste dans son coin. C'est totalement faux. Les gens de théâtre bougent, les artisans bougent, les aristocrates bougent, les ambassadeurs, les soldats. Enfin bon, il y a vraiment tout le monde est sur les routes pratiquement.
À pied, sur les fleuves,
en bateau, sur les fleuves pour être un peu plus confortable, et de temps en temps en carrosse. Mais quand on est en carrosse, on a déjà beaucoup beaucoup d'argent.
Alors l'aventure Constantinople, c'est une aventure qui va le marquer, il est tout jeune et il va même à un moment presque envisager de faire sa vie à Constantinople puisqu'on lui propose de se marier sur place, Chantal Thomas.
On lui propose et il dit non.
Il dit toujours non au mariage parce que c'est sa liberté qui est en cause.
Ah ça, il dit toujours non au mariage. Et là, il dit non et la manière dont il explique pourquoi il dit non est très joli. Il dit je sentais que j'étais fait pour un autre destin. Et ça, c'est quelque chose de très fort dans son sens de la liberté. Il dit non au nom d'une virtualité de plus grand bonheur possible. Et ça, c'est quelque chose que je trouve un des grands signes de liberté, c'est ça. Pas de dire non parce qu'on a une autre offre concrète, mais de dire non au nom de cette espèce de vide qui est devant vous et qu'on va combler et qu'on va animer, mais on ne sait pas encore comment. D'une façon, en tout cas, plus brillante que la perspective qu'on vous offre. Non è femmina in amore che non sia alla sua mercé e conduce la schermaglia con astuta abilità in riposta tra battaglia e da lor vincitor sarà. All'amor, l'amor che invoco è un bizzarro gioco, assomiglia un fuoco che mi prende ma accende tutta. Ogni maschio è tempo.
Casanova et l'Europe galante. Vous écoutez Tout un monde sur France Culture. Nous sommes avec Chantal Thomas et Edith Huyg. Alors Casanova parlait très bien le français, Chantal Thomas et Edith Huyg. Il va écrire en français, un français avec des italianismes. Et la manière dont il parle de la France, son regard sur cette langue, son utilisation, son goût de cette langue, nous en dit long quand même sur ce qu'était le français au XVIIIe siècle. Je trouve que c'est très révélateur quand on lit Casanova.
Oui, le français était vraiment la langue de la communication d'un pays à l'autre. Et pas seulement communication parlée, mais en effet pour les publications.
Il vit en français tout le temps, partout où il va, pratiquement en Europe, sauf à Londres, vous nous disiez tout à l'heure.
Non, partout. Tout dépend de à quelle couche de la société il se trouve. Dès qu'il est proche de la cour, dans les milieux aristocrates, il parle français. Quand il est dans des tables de jeu, dans des tripots, là, il ne parle plus français. De toute manière, il n'a plus besoin de parler. Il aligne ses jetons. Mais oui, la langue française est absolument dominante. Il n'y a aucun doute.
Alors, il va rencontrer quelques-unes des grandes intelligences de l'époque. D'abord, il est formé plus ou moins par Crébillon. Hein,
et puis après, il apprend le français avec Crébillon père.
Pas mal quand même. Oui.
Pas le fils. Non, mm-hmm. Pas le fils de Bertrand.
Et puis il va rencontrer Voltaire, Rousseau, et son français, il va également l'utiliser. Alors à nouveau dans ses lieux de plaisir, qui sont souvent des lieux dirigés par des femmes françaises, parce qu'il y a cette réputation qui a duré jusqu'à aujourd'hui. Finalement, on dit encore d'ailleurs au nord du Canada, vous savez, dans les villes de chercheurs d'or, les femmes de mauvaise vie et qui vendent leur charme, on les appelle des madames.
Alors, le nom de la madame, c'est un terme pratiquement universel, effectivement. Là encore, dès le Moyen-Âge, puisque les étuves étaient tenues par des madames, quand ce n'était pas des mères abbesses, hein, parce que les deux termes se concurrencent pendant longtemps. Les Françaises avaient grande réputation. Venise a été considérée pendant très longtemps comme le plus grand bordel d'Europe. Là aussi, tous les lieux de grand cosmopolitisme, et Venise étaient des maisons, des lieux où les maisons de plaisir s'alignaient les unes à côté des autres. Mais en dehors de ces maisons très ouverte, il y avait des lieux un peu plus privés, et Casanova les fréquente, ce que l'on appelait à Venise les petits Cassini, qui sont des petits lieux de charme, délicieux. Il y en avait un merveilleux qui était le Casino Vénière, qui a appartenu longtemps à la France, où était l'Alliance française, où, avec des musiciens cachés, des alcôves, des fresques. Et là, il y avait trois fonctions. On jouait, on buvait, on mangeait, bien sûr. On amenait ses maîtresses et on complotait. Parce que là aussi, le complot rentre complètement dans cette espèce de discussion de monde qui est près des puissants, donc qui a besoin de s'assouvir. Et hommes et femmes, on y emmenait maîtresses ou courtisanes.
Alors là, on cultive aussi quelque chose que vous connaissez bien, Chantal Thomas, c'est l'art de la conversation. Parce que ce qui est frappant avec Casanova, c'est qu'on n'est jamais dans une débauche sordide. On est toujours dans quelque chose qui est gai et qui est intelligent. Et là-dedans, cet art de la conversation auquel vous avez consacré un livre est capital. Et cette conversation, à nouveau, elle se fait le plus souvent en français.
Oui. Je voudrais juste dire quelque chose à propos du sordide.
Oui.
C'est qu'il y a des touches de sordide dans l'histoire de ma vie, et c'est aussi une des beautés de ce livre, c'est qu'il est à ombre et lumière. Et justement, par moments, Casanova retrouve une ancienne maîtresse de lui, souvent des très jeunes filles, même des enfants, qui ont déchu, et il y a des scènes terribles où il le retrouve justement dans des bordels, ses tableaux à ce moment-là sont d'une totale précision et pas du tout dans une euphorie libertine rose.
Mais il a une empathie avec ces femmes entre guillemets tombées.
Pardon.
Ou il a une empathie pour
absolument,
ces femmes.
Oui. Absolument. C'est toujours des jeunes filles avec qui il a eu une histoire. Et ça, je tiens à le dire parce que c'est l'histoire de ma vie est vraiment faite de contrastes.
Alors
et la conversation fait partie de l'art et du plaisir, presque du plaisir le plus fort, puisqu'il va d'abord raconter sa vie, et c'est à force de la raconter qu'il va avoir ce talent de narrateur-écrivain, mais aussi il va séduire par la conversation, parce qu'il est un de ceux qui l'a vraiment le mieux compris, je pense le mieux vécu, c'est par les mots, c'est pas simplement par l'approche physique, c'est par l'espèce de complicité excitée et par une sorte d'affinité érotique, non dite, que le plaisir et la possibilité du plaisir surgit.
Alors ce goût du langage, ça le rend même parfois insolent, puisque...
Il est insolent.
Quand il rencontre, par exemple, il y a une scène absolument formidable quand il rencontre Choiseul, qui est quand même le ministre de Louis XV, et Choiseul lui demande de raconter quelques anecdotes, et à ce moment-là, Casanova lui dit qu'il ne peut pas être bref, et qu'il préfère ne rien dire. Enfin, il est quand même devant le plus puissant ministre de France, et il dit, si je ne peux pas parler longuement, eh bien, je ne raconte rien du tout.
Mais ça, c'est un des charmes de Casanova. À un moment, il dit, je n'étais rien, c'était trop. Donc, il sait constamment qu'il est issu de rien. Et donc, à cause de ça, il est jamais rampant. Il est vraiment quelqu'un d'une dignité et d'une arrogance et d'une insolence et d'une impudence totale.
Et réjouissante.
Et réjouissante. Tonique.
Alors, cette langue, peut-être un mot tout de même, puisqu'on en est au français et à la conversation, mais aussi à la matière quand même de Histoire de ma vie. Ce français de Casanova, il est quand même presque parfait, avec quelques italianismes, qui donnent même, je dirais, un peu de charme, parce que c'est une langue parfois un peu décalée.
C'est bien.
C'est presque encore mieux.
C'est mieux, parce que c'est une manière d'abord de l'entendre, et de l'entendre sans effacement de ses origines. Et je trouve qu'on entend mieux sa voix par ses italianismes. Non andate girando quella e qua e là e qua e là. Può condurre del matti la festa, del matti la festa. Ma per me è cominciato, non ha cominciato, non ha. Che piacere che sarà. Che piacere che sarà. Vieni, vieni, carino, cantiamo e cantiamo, balliamo, sogniamo. Vieni, vieni, carino, torniamo. Che piacere che sarà.
Voilà, certains auront peut-être reconnu cet extrait de Don Juan, Giovinette che fate all'amore. Ces jeunes femmes qui sont faites pour l'amour. Alors ça nous amène encore une fois, puisqu'on va du côté de Mozart et des réseaux francs-maçons, justement à regarder du côté de ces réseaux que fréquente Casanova. Ça aussi, ça fait de lui un résumé de son époque. Alors l'aspect maçon de Casanova a-t-il joué un rôle important, Chantal Thomas, dans sa capacité par exemple à avoir des relations partout où il allait, peut-être a-t-il même d'ailleurs, on ne sait pas exactement, on n'est pas sûr, rencontrer Mozart, justement au moment de l'élaboration de Don Juan, puisqu'il a rencontré, en tout cas on en est sûr, d'Aponte.
Ah oui, les francs-maçons, c'était très important pour lui. Je crois qu'il est initié à Lyon. Et tous les réseaux, quand on veut faire carrière d'aventurier, il est important d'avoir une multiplicité de réseaux. Et comme ça, il y a des sortes de renvois, c'est une sorte de toile avec des moments de discontinuité, de disparition, mais c'est une toile qu'on tisse dans toute l'Europe.
Et il était un maçon convaincu ou c'était plutôt stratégique ?
Dans Histoire de ma vie, c'est un point sur lequel justement il accepte la loi maçonnique de se taire, il dit rien. Convaincu, il l'était. J'imagine comme il était convaincu d'alchimie. À la fois, il voyait l'intérêt de la chose, ça lui plaisait, ça l'excitait. C'est aussi des possibilités romanesques. Donc de ça, il était convaincu.
Et est-ce qu'il a joué un rôle, comme il a l'air de le suggérer, dans la diplomatie secrète ? Ou est-ce que...
Si c'est possible.
Oui.
C'est possible.
Parce qu'il explique quand même, peut-être pour se donner de l'importance, car il affabule quand même un tout petit peu.
Alors ça, c'est pas ma question, je vous le dis tout de suite. Je lis Histoire de ma vie comme un très grand récit, et bien évidemment construit, sinon on ne le lirait pas. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que telle femme correspond à telle femme réellement identifiée?
Pour vous, ça n'a pas d'importance.
Aucune.
C'est secondaire. Alors ces réseaux sont également ceux, on en parlait tout à l'heure un petit peu, des kabbalistes, des gens intéressés par les sciences occultes. Et on s'aperçoit aussi en lisant Histoire de ma vie que ça occupait beaucoup de monde.
Ah, oui.
Qu'il y avait des cornus, des alambics et des athanors dans tous les châteaux, quoi, littéralement.
Ah, oui. Mais même à un moment où les finances sont catastrophiques, Louis XV demande au comte de Saint-Germain est-ce qu'il n'aurait pas un moyen pour fabriquer de l'or, tout simplement. Donc c'est merveilleux. Mais c'est une époque aussi qui est merveilleuse, comme la nôtre d'ailleurs, de ce point de vue. C'est que coexistent énormément de systèmes conceptuels en même temps. Il y a un principe de non-contradiction qui joue. Et moi, j'adore ça. Je trouve que ça fait partie du baroque de cette époque.
Est-ce qu'il aurait été tenté, pour séduire certaines femmes, d'utiliser des filtres, par exemple ?
Ah ben, il ne le fait pas, en tous
il
les
le
cas.
Il ne le fait pas. Et pas je crois que ce n'est pas dans son optique. Je pense que Casanova était la séduction. Il avait d'autres outils. Et il ne les utilise. Je crois qu'il ne les a jamais pensés comme des outils. Il y avait le plaisir et la liberté de vivre qui jouaient avant tout. Et je crois que Casanova n'était pas le genre à faire des filtres pour endormir des gens. Pour... Bon, il a violé 2 fois, 3 fois dans sa vie, dit-il. Mais ça, c'était bon, assez monnaie courante. Mais... il ne l'a fait, je dirais, sainement, quelque part. Enfin, il n'a pas été chercher des filtres pour endormir.
Oui.
Non, on faisait ça parce que dans ce milieu-là, ça se faisait. Comme il était dans un milieu où on couchait avec des jeunes femmes très jeunes. Et à 12 ans, on était déjà pubère, donc prête à se donner ou à se vendre. N'oublions pas, entre parenthèses, que l'on mariait les petites jeunes filles à 14 ans. Donc,
12 ans.
12 ans. À oui. 12 ans, on pouvait être marié. Donc, être dépucelé à 13 ans ou 14 ans n'avait strictement rien de scandaleux.
Vous avez écrit vous-même, Chantal Thomas, sur les petites filles, justement, le statut oui. des alors, petites filles.
Oui, alors...
À cette époque-là.
mais surtout dans la séduction, en effet, comme dit Edith Wigg, c'est pas un élément actif en face d'un élément passif. Ça, la séduction agit, et ça c'est intemporel, quand la personne est séduite elle-même. Donc c'est un peu une sorte de vertige qui saisit deux personnes.
Ce n'est pas un homme de violence, c'est un homme de stratagème en fait.
De stratagème pour gagner de l'argent. De théâtre, moi je pense. Je trouve que
c'est plus ça qu'il définit.
Il me semble.
Casanova et l'Europe galante. Vous écoutez Tout un monde sur France Culture. On arrive à la fin de cette première partie en compagnie de Casanova avec l'Olympiade de Vivaldi, là qu'on entendait juste à l'instant, cette grande exposition qui démarre à la Bibliothèque nationale aujourd'hui. Alors, j'aurais envie de vous demander à toutes les deux, Chantal Thomas, qui est co-commissaire de cette exposition, et Edith Wigg, donc, qui vous intéressait à ces lieux coquins. Qu'est-ce que Casanova apporte au lecteur ou à l'homme ou à la femme d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va en tirer, à part quelque chose d'un peu exotique dans le temps et dans l'espace ?
Alors, j'espère que c'est quelque chose qu'en voyant l'exposition en sang, grâce aussi à la scénographie de Massimo Quendolo, qui vénitien, qui a vraiment réussi quelque chose d'extraordinairement voluptueux.
Oui, c'est comme un salon, en fait, qui se déroule un peu en labyrinthe. Oui.
Voilà, et je pense que ce sentiment d'une douceur et d'une sorte de plaisir de chaque instant, il est, et j'espère qu'il passe dans l'exposition, mais il est aussi d'abord dans les mémoires. Et ce que Casanova nous dit, c'est de traiter, que chacun, je pense, doit traiter sa vie comme une œuvre d'art et comme la seule chance de réaliser notre aptitude et notre inventivité au plaisir. Et ça, c'est une affaire singulière. Alors voilà,
enfin, une invitation à la liberté qui fera aussi grincer peut-être quelques dents tout de même.
Lesquelles ?
Bah, parce que ce libertinage n'est pas forcément du goût de tout le monde.
Ah hein. Bah, bien sûr
on
que
se rend compte, quand on voit ce qui se passe dans les scènes théâtrales parisiennes, comme tout récemment, qu'il y a encore quand même des sensibilités très, très puritaines qui ne sont pas prêtes à accepter le personnage de Casanova sans critique.
Mais ça, c'est l'actualité de Casanova.
merci Chantal Thomas, Edith Wigg. Alors, de vous, Chantal Thomas, une longue bibliographie qui tourne autour de nos sujets, à la fois votre ancien Casanova, un voyage libertin, ce magnifique catalogue qui paraît aujourd'hui même donc autour de l'exposition, l'esprit de conversation, enfin toute une biblio que nous mettons sur notre site franceculture.com à la page Tout un monde. Et puis vous, Edith Wigg, pour accompagner donc cette réflexion, un indispensable petit livre
petite histoire des lieux de débauche chez Payot. Et puis Casanova, on va le retrouver puisque France Culture, le samedi 26 novembre, lui consacre une soirée spéciale avec Mauvais Genre, notamment Vie et Univers de Casanova. Et voilà un homme vraiment mauvais genre. Donc bon genre. La Fabrique de l'Histoire ensuite, du lundi 28 novembre au jeudi 1er décembre, donc se consacre également à Casanova sur notre chaîne.